As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Hello, everybody. Welcome to The Athletic Support, your bilingual post-game podcast on the Montreal Canadiens. Arpin, we're officially June the 8th. It's midnight. It's 32 degrees outside, and the Canadiens are in the what we could call the Final Four, or formerly known as the Conference Finals. Would you have believed it like 2 weeks ago?
Not a 3-1 down against the Leafs. I don't think I would have believed it, but you know, I feel like, you know, division's wide open. Everything that we said before the season for this team, why Marc Bergevin decided to do what he did in the offseason, why he thought there was an opportunity there, why the Leafs thought there was an opportunity there, why every team in this division thought there was an opportunity there, because there's a clearer path to this stage to get to this point. And now, and that's what happened. You know, and it's not, and to say that they had a clear path is false, because they had to beat the Maple Leafs, and the Maple Leafs were, you know, far and away the best team in the regular season in this division. But you know, just the Canadiens from the get-go said that they were built for this time of year, that they had the players that succeeded at this time of year. Tyler Toffoli scores a series winning goal. It's kind of what he was signed to do. I mean, I guess yes and no. I mean, based on how they finished the season, I don't think it would have been realistic to think that they could do this, but it's not utterly shocking to me either. I mean, it is them kind of living up to their potential for the first time all year at this specific moment. And in that sense, good for them, because they hadn't really shown it all season.
Yeah.
But we are seeing them play to their fullest potential right now, because I think at the beginning of the season or before the season, you, me, a lot of people around hockey saw this team as a good team.
Yeah.
And we're finally seeing it now.
Absolutely. But it was not a straight line to get there, though. You know, you look at the way things have gone throughout the season. No, definitely not. That's the term that you used, actually, in your latest article on The Athletic. Absolutely. So, what's pretty impressive, and Dominique Chow mentioned it after the game tonight, is yet again tonight, they reached another level. They played even better than they had the previous game. It's almost, I understand that they're going to have a break now and they're going to be able to have some rest and it's going to be good for them. But I'm a bit concerned with the momentum that's going to be broken by that, because they're in such a good groove now. It's, you know, it'll buy some time for Jeff Petrie. Some guys are might have some bruises here and there. But, I mean, it's almost as though, come on, guys, keep going, keep playing, because they got really something good going there.
But you know what? Like, honestly, these are going to be the first games all season any team has played against another team. You know, it's kind of like how baseball used to be with the World Series. So any added preparation time that any coaching staff has is a massive advantage, I feel. You know, I mean, anyone's going to look at the Canadians and say, well, they have no chance against Colorado or Vegas. And all you have to do is watch 2 seconds of that series and be like, yeah, they're kind of playing a different sport. It's not really the same game as any team in the North Division was playing. But having said that, you have a goalie playing as well as he is, and you just have a team playing such a cohesive team game right now, where everyone is all the cliches are on the same page, they're pulling on the same rope, they're doing whatever you want to call it. The Canadians are playing as a team.
Yeah.
They have lots of elements that are still working their way in. You know, Cole Caulfield sets up the overtime winner tonight. It seems like every game, you know, the maneuver he made to get open to make that pass was not easy. Like, that was not just a gimme, like, okay, here we go, and I'm just going to make this pass and it's easy. No, Nick Suzuki made a good play to engage someone on the wall. Puck pops out to Cole Caulfield. He has the presence of mind and the confidence to make a play with it, get it to a spot where he can make a pass, and then actually make that pass and make that decision in a split second. And so, you know, as he grows in importance, the Canadians improve. You know, there are still areas where, you know, you were mentioning today that, you know, Jesperi Kotkaniemi is kind of, you know, he's sort of there. He's sort of sometimes there and whatever. He's not really being impactful, I think is the word that you use. And there's potential.
On shift by shift basis. That's what,
right. Yeah. So there's potential for him to improve. Like, there are potential improvements within the team still, even though they've reached this stage. But, you know, as they mentioned, they're only halfway to where they want to go. And I kind of like Dominique Ducharme's thinking there, that if we want to win, then we got to beat the best team at some point. So might as well be right now.
I love you mentioned the name of Caulfield. I love there's a comment in our comment section in French saying that Caulfield is the new Mats Naslin. It's fitting because, I remember when I was a kid, Mats Naslin used to create the same vibe, the same excitement of seeing like this little beast, this little Tasmanian devil on the ice, you know, and that's pretty much the feeling that we get out of Caulfield right now. Mm-hmm. It was an interesting performance from the D-Core, also with Jeff Petrie not being there for tonight. You know, a little injury update here. Dominique Ducharme says that there's a chance he might not be able to play the first game of the semifinals, but he's very, very confident that we're going to see him at some point, at least in that semifinal. So it doesn't look as though it's going to be too serious, but that break will be helpful. But the way the minutes and the responsibilities were reorganized tonight, we had Alexander Romanov making his playoff debut in the NHL. It was interesting to see. And I mean, everybody knows that by now that Romanov is very excited. He's a very jumpy player. And there's a level of energy that reminds me of PK Subban. But tonight he brought it next level. I mean, during the warm-up, during the anthem, early on in the game, he was ready to step on the ice for his first shift. He stood up on the bench during a whole shift where he thought that he was next man up. And he ended up not going, but he was like, he was so eager to go.
He wasn't only standing, he had his knee on the boards for like a minute straight. It was quite funny.
Yeah. I mean, he brought some fun energy, but overall, I mean, the defenseman did a great job against, and the whole defensive game of the Canadiens, limiting the Winnipeg Jets to a minimum. I mean, 16 shots. 37 shot attempts. That's half of what the Canadians did over that game. That part was quite impressive because the Jets kept fighting. It's not as though they just folded early on after the Canadians scored a goal. They tried to fight. They tried to engage, But the Canadians were just too dominant tonight, even though the game went 2 overtime.
Yeah, I mean, Connor Hellebuyck is a big reason why. And you know, the Canadians' pressure, zone time, everything, you know, the Jets just did not have it. I think Paul Maurice admitted that after the game, that it was pretty obvious that they were fighting it tonight. Yeah. And so I think, again, Canadians deserve some credit for that, because they were just relentless forecheck-wise all series, and have done so for 7 straight games. The lights just came on in the Bell Center. That's kind of weird. But it's been 7 straight games of just forechecking pressure. And you know, I don't think the Canadians have necessarily – they have improved game by game over the course of those 7 games. But it's – the underlying principle remains the same, is that we are going to pressure your defensemen into mistakes. And where the secondary and third layers of pressure come from is where I feel has been the greatest improvement. But first is the will to have that first guy arrive and create that initial, you know, that initial part of the pressure. But where the second and third guys are, because like tonight, you just saw it, like it would come in layers. Like if a guy beat the first forechecker, there was someone right there waiting for him.
Yeah.
And then they had to get rid of the puck. And then that second, wherever the puck went, there was a guy showing up right there as it arrived. And the Jets had just no room to breathe. Like they really getting, and it's the theme of this series is the Jets being unable, exactly what we were saying about the Canadians like 2 weeks ago, unable to get from the defensive zone to the neutral zone to the offensive zone with possession of the puck. They just were not able to do it. And tonight it was striking. Like they couldn't even get to the red line with possession of the puck, let alone the Canadian zone. And so the Canadians' forechecking scheme and the way chemistry is developing on lines in a way that we haven't seen all season, because lines have not been this consistent since Claude Julien got fired, at least. And it's not for this many games in a row. So, you know, you see the chemistry developing on every line, and especially it helps that they have an Arturi Lehkonen waiting when Jake Evans gets injured, and he's just a seamless fit because very, very similar player that you could just slide in there, you know. And they're doing this, you know, Thomas Tatar's not even in the lineup, you know, like they really have a lot of things going for them in terms of their forward depth and how they're playing with depth. When we looked at this team at the beginning of the season, what did we say? We said, they are going to kill you with depth. They're going to kill you by coming at you in forechecking waves of pressure that comes 1-2-3-4, 1-2-3-4 over and over and over again. That over the course of a game will wear you down and create mistakes and create opportunities to score. That's how I looked at this team. That's how many people looked at this team as being its strength. And now that's exactly what they're doing. So
except that during the regular season, it wore them down.
Yeah,
that was the difference, you know. And I think that it's a byproduct of the schedule and a lot of things that I think that we'll understand and discover after the fact about the challenges specific to this season. That I feel like we're a bit in the dark of the little, you know, ins and outs of what went through it. But I think that it was even more of a challenge than what the players let it known. You know, probably. Not only from a practice standpoint, not only from a travel standpoint, but for the families too, it's been a grind. So, and it's funny because there was a Winnipeg radio host saying, you know, the Canadians are playing a lot of hockey in not many days in these playoffs. You think they'll have, you know, the stamina to overcome it? And I said, well, they're having quite a bit of practice in that department this season. They know what to expect. The whole second half of the season, they've been playing like that more than every other day, or almost. You know, it's been crazy. So once again, I mean, Dominique Deschamps identified the break that they had between the regular season and the first round of the playoffs to really, you know, fill up the tank and finally get some time to practice and figure things out. And possibly that between now and the beginning of next round, it's a similar type of environment of opportunity that they have in front of them to do the same and really you know, come together even more as a group that they've had lately in that series against the Jets.
Yeah. So we're going to talk a little bit more about the next series and what just happened right after this this word from our sponsor, and we'll come back en français after we hear from our sponsor from Manscaped.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Donc, on est de retour. Écoute, c'est intéressant de voir comment le Canadien, durant toute cette série-là, à partir, du cinquième match contre les Maple Leafs, mais de plus en plus, à quel point une des parties de son identité qu'il a trouvée, c'est à quel point son échec avant peut être féroce. Les Jets ont été allergiques à l'échec avant du Canadien. Ça a été frappant, puis je pense que c'est devenu, tu sais, tu le mentionnais avant la pause, le fait que les Jets avaient de la difficulté même à sortir de leur territoire, à faire des sorties de zone qui étaient franches, et puis ils se faisaient couper en sortie de zone ou en territoire neutre, empêchés de prendre de la vitesse. Là, j'ai hâte de voir parce que ça va être soit l'Avalanche du Colorado, soit les Golden Knights de Vegas qui vont être les prochains adversaires du Canadien. Et en ce moment, ce qu'on voit dans la série entre Vegas et le Colorado, c'est que Vegas est en train de faire à l'Avalanche ce que le Canadien vient de faire aux Jets de Winnipeg, ouais, c'est-à-dire exercer une pression constante sur une équipe qui, offensivement, est très dangereuse pour lui, véritablement lui lier les mains puis l'empêcher de prendre son élan. Fait que ouais, ça va être intéressant de voir. Si jamais le Canadien, l'Avalanche vient à bout des Golden Knights, il va falloir que Dominique Ducharme regarde exactement là où ça a fonctionné pour les Golden Knights, justement, dans leur échec avant, puis quel est le bout qui leur aura manqué. Mais sauf que qu'on aide vers un adversaire ou un autre, c'est la plus grosse commande que le Canadien va avoir eue jusqu'à maintenant, parce qu'on peut dire que les Maple Leafs de Toronto avaient une offensive dévastatrice, du moins avant la blessure de John Tavares, mais quand même, ils avaient une grosse offensive. Mais là, on parle de deux prétendants sérieux à la Coupe Stanley.
Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voyait les Maple Leafs. Je veux juste dire bonjour à M. Suzuki, qui est notre he's our number one fan, so he's actually listening in French. How are you doing, Mr. Suzuki? Nice play by your son on the overtime winner. Thanks for tuning in. Mais oui, c'est le fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde, pas juste le monde à Toronto, mais il y avait du monde qui voyait les Maple Leafs de Toronto comme étant un prétendant à la Coupe Stanley, puis je pense que c'était justifié. Oui. Puis je pense que, honnêtement, il faut dire, si John Tavares avait joué dans cette série-là, ça aurait pu être différent, mais les Canadiens doivent affronter les équipes qu'ils ont. C'est tout. Je voyais du monde qui disait « Ah, regarde, ils ont battu les Maple Leafs sans John Tavares, puis ils ont battu les Jets sans Mark Scheifele. » Ben, honnêtement, l'affaire avec John Tavares, c'est un accident. Ça arrive dans le hockey, c'était plate. Personne ne voulait voir ça. Puis l'affaire avec Mark Scheifele, est-ce que c'est la faute du Canadien que Mark Scheifele a perdu sa tête dans le premier match, puis
oui,
faire ce qu'il a
oui,
fait.
Oui, c'est la faute du Canadien. Et c'est très bien comme ça. Si tu fais perdre la tête au meilleur joueur de l'autre équipe, c'est parce que tu as fait quelque chose de bien.
Ben, c'est ça. Exact. Alors, moi, tout ce que je pense, c'est juste que cette équipe-là, il carbure sur le doute. Là. C'est vraiment quelque chose qui adore. C'est les gars qui ont été ici depuis longtemps. T'sais, c'est comme on l'a déjà vu. L'année passée, dans la bulle, ils ont juste gagné une ronde préliminaire, là, mais c'était quand même une équipe qui était beaucoup plus faible que celui qu'on voit devant nous en ce moment. Ouais. Et il y avait certains éléments qui étaient là, puis c'est ça qui les motivait. Alors, je pense que le plus de temps qu'ils vont passer sans jouer, le plus le monde va commencer à parler du fait que le Canadien attend pour perdre, ça va juste aider le Canadien. Puis honnêtement, je dois dire que je suis vraiment impressionné avec Dominique Ducharme, avec tout ce qu'il a vécu cette année. J'ai toujours trouvé, et je pense que tu étais d'accord, mais j'ai toujours été impressionné avec lui comme coach. Sa façon de communiquer avec nous, donner un petit fenêtre à la façon qu'il communique avec ses joueurs. On le voyait aux entraînements, ouais. Combien de gars il essayait d'aller voir à chaque entraînement. Puis les entraînements, au début, quand il a pris charge, c'est difficile à rappeler. Il y a tellement de choses qui se sont passées, là, mais c'est intense. Là. Il y avait des choses. Il prenait des morning skate pour faire des séances d'apprentissage de son système. Tu sais, il assoyait tous les gars par terre sur la glace pour que lui, il les montre les chemins qu'il veut prendre sur la glace à certains moments. Puis il y avait toutes sortes de... Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Puis tu sais, Brendan Gallagher parlait de ça hier, dans le fond, là, c'est que il bâtissait quasiment de zéro. Et c'était pas tout à fait zéro, mais il faut se dire que c'était quand même assez clair que la façon que Claude Julien dirigeait l'équipe, c'était pas la façon que Dominique Ducharme l'aurait fait. Et non. Je pense que là, on est en train de voir ce que Dominique Ducharme a toujours voulu que cette équipe-là fait. Puis c'est arrivé après quasiment un camp d'entraînement. Comme c'est pas si choquant que ça, mais il a reçu ce job-là, puis il était quand même assez reconnaissant du fait à quel point c'est spécial pour lui d'être l'entraîneur du Canadien en ce moment. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de critiques de lui, mais la situation dans laquelle il a eu ce job-là n'était pas facile à gérer. Là. Puis honnêtement, je pense qu'il y avait des moments où il était en train d'échouer, mais il a quand même réussi à faire les séries, puis il a réussi à avoir ses jours de préparation, puis là, il est rendu dans les quatre dernières équipes en série.
Il y a une des meilleures façons de réussir à Montréal, c'est d'être capable, et ceux qui réussissent le mieux à Montréal, c'est ceux qui sont capables de bloquer le bruit à l'extérieur. Et quand tu es coach canadien, c'est une chose qui est extrêmement difficile à réussir. Et puis Dominique Ducharme, je ne sais pas à quel point il était sincère ou non, mais tu sais, je me souviens... quand il était question au début de la série du fait de laisser de côté Kotkaniemi puis Caulfield, dit que écoutez, j'en ai à peu près pas entendu parler. Le monde me critique. Peut-être qu'il l'a entendu, mais c'est clair que toute la ville au complet est en train de lui tomber dessus. Puis même quand le Canadien est en train de gagner des matchs, Romanov, ça revenait constamment. Il a été pointé du doigt énormément depuis son arrivée. Et je trouve que c'est un tour de force d'avoir maintenu le cap envers et contre tout, puis d'avoir mené cette équipe-là où elle est aujourd'hui. C'est pas seulement lui, évidemment, puis je te dirais que les vétérans de cette équipe-là ont leur gros mot à dire parce que c'est eux qui ont pris charge de cette équipe-là puis qui l'ont pris dans leurs mains puis ont dit « OK, on va amener ce groupe-là au point B ». Cela étant dit, c'est quand même un entraîneur qui prend les décisions pour organiser son équipe puis s'assurer d'avoir le meilleur personnel sur la glace puis le mieux l'utiliser possible. Ça, c'est des décisions qui lui reviennent. Puis il y avait un produit à vendre. Et je suis épaté par la façon dont il a réussi à vendre son produit. Alors,
c'est quand même, il faut le dire qu'il l'a vendu quand même assez rapidement. Là. C'est, dès le début, on entendait, tu sais, les joueurs allaient des fois, ils n'avaient pas besoin de dire ça pour une certaine question ou quoi que ce soit, mais ils disaient que il faut jouer ce système-là. Il avait l'air de toujours croire, avoir une certaine croyance en ce que Ducharme voulait qu'il fasse. C'est juste que c'était difficile de l'apprendre parce que c'était toujours interrompu par des matchs. Alors, c'est prendre deux pas devant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Mais on a Missy Suzuki qui est en train de donner des commentaires en français. Je suis tellement fier. I'm really proud of you, Missy Suzuki. That's really fantastic. Mais c'est ça la différence, c'est que c'est pas que les joueurs n'achetaient pas ce que Ducharme était en train de vendre. C'était difficile de le faire sur la glace, de façon que il a été introduit. Alors je suis d'accord avec toi. Je pense que avec tout, puis c'était quand même assez drôle quand il dit « Ah oui, j'étais pas au courant que tout le monde est en train de give me heat », je pense
ouais,
que c'est la question que j'avais mentionnée, là, mais
un bon exemple de ce que tu dis là par rapport au fait que les joueurs ont adhéré à ce qu'ils proposaient, mais ça, c'est juste que ça a pris du temps, c'est les prolongations. Tu sais comment son fameux système passif ou d'attendre l'occasion, puis
ça c'est quelque chose d'autre pour lequel il a pris beaucoup de heat.
Absolument. Mais à partir du moment où ça commençait à fonctionner, tu sentais que les joueurs faisaient ah ouais, c'est bon. Puis là, tu sais, ça. Puis ils ont comme embarqué. Puis je pense qu'à un moment donné, quand la recette est éprouvée, quand les résultats viennent, après ça, c'est beaucoup plus facile de continuer et de dire OK, on continue dans ce processus-là, parce que vous allez voir que ça paraît peut-être un peu étrange après ma barre, mais il y a des résultats qui vont venir au bout de l'allée. Alors, il y a tout ce processus-là qui s'est déroulé. Une autre partie du processus, puis là, je tourne la page, mais parmi les joueurs qui étaient ce qu'ils étaient en saison régulière et qui sont devenus quelqu'un d'autre en séries éliminatoires, ben encore une fois, je dois parler de Carey Price. Pas nécessairement à cause de ce qu'il a fait ce soir. Ce soir, ça a été une soirée particulièrement peu occupée pour lui. Mais ouais, je pense que c'est ça.
C'est ça sa réponse, ouais.
Ben ouais, tu lui as demandé, qu'est-ce que ça te fait d'obtenir aussi peu de lancers? Ben, on a gagné.
Ouais, c'est ça.
Mais sauf que dans le grand ensemble des choses, tu sais, on en revient aux chances du Canadien de l'emporter, soit contre les Golden Knights ou l'Avalanche, ça demeure la carte maîtresse de cette équipe-là. Parce qu'un Carey Price au sommet, bon, il a peut-être donné un mauvais but ce soir, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, le deuxième de Logan Stanley, mais de manière générale, son rendement dans les séries, tu sais, c'est pas en essayant de marquer 5 buts à tous les soirs que le Canadien va réussir à l'emporter. Ça va être avec son système. Et ça va être avec le 31 qui continue de faire ce qu'il fait depuis le début de la série.
Ben, puis le premier but de Logan Stanley ce soir, une shot qui était quasiment parfaite. Je pense que ça se peut que ça a touché au bâton de Paul Byron, je ne suis pas certain. Mais alors, ça change un peu ce qu'on a dit après le but. Si tu te rappelles, j'étais tourné, je suis comme, hey, c'est quand la dernière fois que quelqu'un a juste pris un tir, a battu Carey Price, même si c'était un tir parfait, c'était un tir sans aucun écran, il n'y avait aucune déviation. Mais tu penses à tous les buts que les Maple Leafs se sont mis à marquer dès le match 5, c'était quasiment toutes des déviations ou des écrans où Price ne voyait rien. Il n'y avait jamais de juste une shot qui a battu
Carey Price. Jeff Petrie.
Ouais, c'est ça. Deux fois sur Jeff Petrie, tu sais, c'est comme...
Ouais.
Alors, et je dois revoir la séquence avec le premier but de Stanley, mais ça avait l'air d'être une shot qu'il a juste battue. Et c'était frappant. C'était comme, wow, OK, ouais. ce shot-là est rentré. Tu sais, c'est comme, ça prend toujours quelque chose d'autre. Alors, On verra, mais t'as parfaitement raison. Puis c'est drôle parce que chacun entre nous, on a couvert cette équipe pendant longtemps. Puis à chaque fois que ça arrive cette saison, qu'on peut passer toute une émission où je peux écrire toute une série d'articles où je peux juste parler du Canadien pendant longtemps sans que Carey Price soit nommé au tout début. Dis long sur cette équipe-là. Tu sais, c'est comme Carey Price, il est au sommet de son art, c'est le meilleur joueur de l'équipe, il leur donne la meilleure chance de continuer et de se rendre en finale, c'est Carey Price. Mais pour la première fois, probablement de sa carrière, c'est pas juste Carey Price. C'est pas vraiment question juste de lui. Il y a un système devant lui, il y a des gars qui croient dans ce système-là, il y a du profondeur, il y a un bon mix de vétérans, de jeunes, de gars dans le moyen âge un peu. Alors, juste en terminant, juste pour dire que t'sais, on a douté de cette équipe-là contre Toronto. Ils ont battu Toronto. Je ne sais pas combien de personnes doutaient trop. T'sais, c'était quand même 50-50 contre les Jets. Ils les ont balayés, puis balayés. Pas comme les Jets ont balayé les Oilers. C'était quand même un balayage assez convaincant, c'est ça.
Ouais.
Alors, écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont être capables de faire contre Colorado ou Vegas. Ils doivent espérer que cette série-là soit difficile pour les deux équipes, mais j'en douterai pas cette équipe-là. Là. Je pense qu'ils ont prouvé pas mal de choses. Puis c'est une équipe très différente de ce qu'on a vu à n'importe quel moment dans la saison régulière. C'est pas la même chose. Alors, il faut oublier ce qui est passé en saison régulière puis évaluer ce que tu vois en ce moment pour avoir une juste appréciation de l'équipe en ce moment.
Absolument. Bon, ben écoute, merci Arpin. On va conclure là-dessus. On va l'écrire. Mais merci tout le monde d'avoir été des nôtres encore ce soir. C'est bien le fun. On va continuer ça pour une autre ronde, au moins. Alors, ça va être une... Puis là, entre-temps, je ne sais pas si, dépendant de la longueur de la pause, je ne sais pas si on va avoir un épisode régulier de notre podcast, là, parce que ceux qui viennent d'apprendre la connaissance du sport athlétique. C'est un, normalement, c'est un podcast régulier une fois par semaine sur YouTube, sur Spotify, Apple, etc. Là, on a nos après-matchs en direct sur YouTube, mais on va voir si on va avoir un format plus traditionnel pendant la pause. Mais sinon, on vous reviendra ça, assurément après le match 1 de cette demi-finale. Mais que l'on continue, comme disait mon ancien patron.
Oui, alors, ça continue. Ça continue notre petite émission, puis ça continue la petite histoire de l'équipe locale à Montréal. Alors, on verra ce que ça donne. Oui, effectivement, on se reverra après le premier match du demi-finale. À tantôt.
OK. Bye-bye.